Bonsoir. Donc on va commencer cette rencontre avec Monique Loret au sujet de ce livre qui est à la fois grave, l'énigme de la pulsion de mort, c'est pas c'est bien de ça que ça parle, mais qui a un sous-titre extrêmement allègre qui vous aura pas échappé, qui est l'éthique de la joie, pour une éthique de la joie. Donc ça va nous inviter à faire un pont entre ce qui est du côté de la pulsion de vie et du côté de la pulsion de mort, de voir comment les deux choses s'articulent et comment peut-être au fond le désir est une espèce d'exercice où on surfe sur la pulsion de mort avec évidemment le risque que si on loupe une vague, elle se retourne de l'autre côté de la... sur la face pulsion de mort et que c'est beaucoup moins agréable. Alors ça peut donner beaucoup d'énergie, mais enfin c'est une énergie qui demande à être un peu averti dans son maniement. Dans ce que nous avons échangé avec Monique Loret avant-hier, il y a quelque chose qui me paraît intéressant, qui était complètement inattendu, autant pour l'un que pour l'autre. C'est-à-dire que dans ma lecture, il y avait la rencontre avec un très vieil homme, et dans l'écriture de Monique, il y avait aussi en sous-jacence une autre rencontre avec un vieil homme qui est décédé maintenant, et dont elle vous dira, Monique, un petit peu comment cette rencontre-là a été déterminante dans le mouvement d'écriture de ce livre-ci sur la pulsion de mort. C'est-à-dire qu'au fond, l'approche de la mort aussi, peut-être, et son côtoiement, nous amène à une réflexion sur comment les choses s'organisent et comment on arrive à faire ce tour de passe-passe qui est de prendre en compte l'échéance de la mort et ce qui, en nous-mêmes, peut-être, peut faire œuvre de ce côté-là pour en tirer une force de vie. Parce qu'évidemment, si on se réveille tous les matins en se disant que la seule certitude qu'on a, c'est qu'on est programmé pour se déglinguer et que ça va mal finir, on a beaucoup de mal à arriver jusqu'à l'heure de midi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il faut qu'on arrive quand même à se faire un tour de passe-passe à l'intérieur de soi-même pour à la fois ne pas méconnaître ça et en même temps tirer de ce savoir-là quelque chose qui, paradoxalement, va nous donner de l'énergie. Je crois que ça, c'est extrêmement intéressant. L'autre axe et l'autre application, ou l'autre réflexion du travail de Monique Loret, c'est aussi de nous inviter à une réflexion sur l'actualité du social et sur comment se positionner avec nos responsabilités d'être avertis, certes, mais d'être de passage. De savoir comment on s'y prend pour peut-être transmettre un petit peu quelque chose, au moins, à quelques autres, dans l'espoir peut-être que le trajet que l'on aura fait, ce que l'on en aura retiré, ne soit pas, au fond, en pure perte. C'est peut-être pour ça que je vous fais la faveur de vous lire quelques lignes avant de passer la parole à Monique. Les quelques lignes en question, ce sont les premières lignes de l'introduction au premier tome des mémoires d'un très vieil ami, dans tous les sens du terme. Ça date de la semaine dernière où je l'ai retrouvé à minuit à Paris en train de m'attendre parce qu'on venait de lui apporter le tapuscrit du premier tome de ses mémoires. Et il voulait qu'on en parle et que je lise un petit peu ça. Et quand je dis que c'est un très vieil ami, c'est qu'il a quand même eu 101 ans au mois de mai. Donc vous voyez, il est très concerné par la question de l'échéance du temps. Alors je vous lis ces quelques lignes, ça va être très, très court, mais ça donne la mesure de quelque chose. Fût-ce la date de 2000 qui déclenchant en moi le besoin de me retourner sur les années particulièrement prégnantes, notamment en ce qui me concernait, du siècle passé. Je me mis à me rappeler, puis à noter mes souvenirs d'adolescence et de jeunesse, disons des années 35, 45, 47. C'était en gros mes années d'apprentissage, mais elles étaient avant tout marquées par des événements qui dépassaient considérablement mon histoire personnelle, ceux de l'histoire avec un grand H, qui était celle d'un certain déclin de la France, en fait de la fin des illusions de sa victoire de 1918, de sa valeur exemplaire pour l'ensemble de l'Europe et enfin de son malheur sous l'occupation nazie. Certes, il y eut alors en France des destinées, les unes infiniment plus sombres, voire tragiques, d'autres véritablement héroïques, mais enfin, il me semblait qu'il pouvait ne pas être inutile d'évoquer la vie quotidienne en ces années-là du jeune poète que j'étais, dans la mesure où mon existence, mes pensées, mes craintes et mes espérances appartenaient aussi à l'ensemble des poètes de ma génération, à savoir celle que j'appelais les enfants de 14. Cette génération me paraissait soumise dans son adolescence à deux forces contraires. D'abord, celle de l'enthousiasme d'une jeunesse qui attendait que la poésie, comme le voulait Rimbaud, vînt changer la vie. La force contraire étant celle, hélas, de la criminalité mortelle, de la chute de l'Europe, des nations totalitaires, en premier l'Allemagne d'Hitler, l'Italie de Mussolini, l'Espagne de Franco. Il m'importait aussi de me ressouvenir et de me rappeler l'élan de renaissance qui avait succédé à la fin de la guerre et à la victoire des démocraties et d'évoquer comment les poètes avaient participé à cet élan et sa réussite. Vous retrouvez dans ça ce battement hein, entre ce qui est du côté des forces de la vie et du côté des forces de la destruction, hein, d'une énergie mise au service de la destruction et de l'énigme que ça peut nous poser à tous, y compris près de l'échéance d'une très longue vie, quand on a la chance de pouvoir encore y penser et écrire de cette façon, de se dire au fond, mais avec la seule arme qui aura été la mienne, en l'occurrence, il s'agit de Georges-Emmanuel Clancier, la poésie, qu'est-ce que j'aurais changé, qu'est-ce que j'aurais apporté pour changer la face du monde. Vous voyez, ça paraît quand même très dérisoire devant tout ce siècle, me disait-il, qui a apporté tellement de choses extraordinaires dans le progrès et qui a mis en œuvre tellement de choses au service d'une destruction la plus totale. Hein, vous voyez, c'est un peu dans ces deux paysages-là qu'on va cheminer avec le livre de Monique.
Merci Serge pour cette très belle introduction et très belle pensée de ton vieil ami. En échangeant effectivement avant-hier, nous avons été surpris tous les deux effectivement d'une rencontre première avec un vieil ami. Moi, ça a été en 2009. J'ai fait un voyage en Israël pour la première fois que je voulais découvrir. Et ça n'a pas été un voyage pour la psychanalyse, ça me changeait. C'était un voyage pour la musique. C'était un concert d'opéra en Israël. Et j'écoutais le Nabucco de Verdi. Il y avait deux soirées musicales. Voilà, le Nabucco de Verdi au pied de Masada illuminé. Et dans ces deux soirées d'attente assez longues, j'étais assise à côté d'un vieil homme dont le visage m'avait beaucoup impressionnée. Je trouvais qu'il avait un visage assez très beau. Et on a sympathisé et il a commencé à rapidement me livrer son histoire. Cet homme avait été déporté à l'âge de 15 ans. Voilà. Donc il a commencé à me raconter un petit peu sa vie dans les camps, les marches de la mort et comment il s'est reconstruit après puisqu'il avait dans les 80 ans. Ce qui a été assez émouvant pour tous les deux, c'est que quand le Nabucco a démarré, au même moment musical, nous nous sommes retournés l'un vers l'autre et nous nous sommes dit « il faut écrire ». Voilà. Donc j'ai d'abord commencé un premier ouvrage sur ce témoignage de cet homme que j'ai écrit sous forme d'entretien et qui n'est pas encore publié, qui a quelques aléas, enfin, il y a eu quelques aléas, quelques retards dans la publication. Malencontreusement, ce vieil ami est décédé il y a un an et demi. Voilà. Et en attendant, moi, ce blocage, cet arrêt, effectivement, sur ce que je venais de recevoir de charge de destruction et de tenter de mettre en mots et en pensée pour les jeunes, m'a poussée. Je ne pouvais pas rester en arrêt aussi. Donc, ça m'a poussée au travail et au désir pour travailler un petit peu plus loin. Et c'est là que je me suis mise à travailler au niveau théorique plus approfondi sur cette pulsion de mort et cette capacité de destruction de l'humain. Voilà. Donc j'ai commencé mon livre en reprenant un petit peu les apports théoriques de tous les grands penseurs de la psychanalyse. Freud, qui en 1920 a élaboré ce concept de pulsion de mort dans Au-delà du principe de plaisir, en observant chez l'humain effectivement une double polarité, pulsion de vie, pulsion de mort, avec une pulsion de mort qui œuvre chez tout un chacun à la désintégration. Voilà, et contrebalancé par la pulsion de vie. Tout ce travail de Freud, alors il y a eu Freud, il y a eu Mélanie Klein, il y a eu dans les analystes après les plus récents, bien entendu, tout le travail de Lacan et le travail d'André Green. Voilà. Mais à l'époque de l'élaboration freudienne de ce concept, il y avait aussi dans le contexte européen une montée en puissance du projet d'extermination en masse nazi. Voilà. Et en 30 Einstein a demandé à rencontrer Freud justement pour pouvoir penser ces questions et tenter de prévenir la Seconde Guerre mondiale. Cet échange a donné lieu à un écrit qui a été publié qui s'appelle Pourquoi la guerre et qui a été publié en 1933 simultanément dans trois pays, en France, en Angleterre et en Allemagne. En Allemagne, il a été immédiatement censuré puisque le Reichstag venait d'arriver au pouvoir. Voilà. Mais tous les deux ont tenté de penser comment pouvoir dériver cette folie destructrice qui habite en chaque homme. Et justement, qu'avait bien touché de très près cet homme déporté qui s'appelait Robert Marco. Il me disait... On ne sait pas comment chacun peut réagir dans des conditions extrêmes et découvrir effectivement quelque chose de plus horrible de soi. Voilà. Et dans cette dualité, pulsion de vie, pulsion de mort en chacun, et effectivement, quand nous échangeions là l'autre soir, nous avons été frappés par cet élargissement. Et récemment, en travaillant encore ces questions, je me suis dit comme s'il y avait ce que Freud avait appelé une Erweiterung, un élargissement des possibilités. Il le mettait au niveau des possibilités d'élargissement de la conscience, mais dans le développement de la civilisation et de l'humanité, on se rend compte qu'il y a eu une suite ininterrompue de conflits et de destructions, et dans un degré de plus en plus élargi. Comme si l'élargissement des progrès ou le siècle, effectivement le 20e siècle, comme disait ton ami, qui a été quand même un siècle aussi de grandes découvertes, était aussi accompagné parallèlement par un élargissement des capacités de destruction et d'imagination de destruction. Parce qu'il fallait pouvoir, comme dit Alain Badiou, imaginer cette capacité de destruction qui s'est passée dans la Shoah. Voilà. Et je vous livre un petit peu là, tout ce que je peux associer autour. Et dans aussi ce qu'a dit ton ami, j'ai entendu cette notion d'élan après la destruction et de renaissance. Alors, ça, je m'étais posé la question, parce qu'effectivement, comme dans ce livre aussi, nous allons en parler aussi, il y a eu un apport de la question de la pensée chinoise. Beaucoup de personnes m'avaient demandé, mais qu'est-ce qui fait qu'en Chine, il y a un tel élan ? Voilà. Et je m'étais posé aussi la question, un élan du côté de la vie, effectivement, que l'on sent, et un désir qui est à l'œuvre. Et je me suis dit qu'il y avait certainement probablement un effet de résilience, effectivement, après la destruction. hein, comme si la destruction était suivie d'un bond en avant, voilà, d'ailleurs. Il y a le bond en avant chinois, il y a le bond en avant, il y a eu le bond en avant après la guerre, voilà, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau cycle, effectivement. Alors Heidegger l'a très bien dit en parlant de fatigue de l'étang, hein, l'être qui se fatigue à lui-même et fatigue de l'étang qui pousse. Heidegger nous prévenait aussi en disant attention à, dans cette fatigue de l'étang, à ne pas fabriquer un non-monde, fabrique qui peut être à l'œuvre et pousser effectivement aux guerres suivantes. Voilà, dans un cycle recommencé.
Alors ça, c'est pour l'élargissement. Mais il y a une part de la question peut-être qui est à l'intérieur de soi. Comment on se débrouille d'un espèce de tour de passe-passe qui serait de faire en sorte que le désir à l'œuvre puisse au fond détourner en l'articlant une énergie qui pourrait bien être mortifère. Par exemple, tu en parles, tu développes tout à fait ça, c'est vraiment ce titre absolument fantastique de Sabina Spielrein en 1911, dans ce travail qu'elle a fait, qui était consacré à la destruction comme cause du devenir. Je veux dire, ça c'est quand même, parce qu'à l'intérieur de soi aussi, je veux dire, on livre des guerres, on déconstruit et peut-être qu'on retrouve des élans d'énergie, enfin, c'est toute une question, ça.
Oui, il y a beaucoup de points là, effectivement. Sabina Spielrein, en 1910, cet article, elle a en fait inspiré Freud, qui était au travail sur son concept de pulsion de mort. Il avait dit d'ailleurs à la société de Ventosque, en disant « la petite a des idées intéressantes ». Voilà. Effectivement, donc il y a une propre force interne qui œuvre à la destruction. Et dans l'au-delà du principe de plaisir, Freud l'a relié à la contrainte de répétition. En fait, dans le psychisme humain, le désir du sujet non encore libéré de ses aliénations infantiles, en fait, entre dans une machinerie répétitive, d'une répétition de fantasmes, et qui peut pousser à la destruction du sujet. Voilà. Alors, soit le sujet, au cours de la vie, en prend conscience et arrive à faire avec ces répétitions. Gérard Pommier parle d'ailleurs de répétitions élargies, qui s'élargissent ou s'assouplissent de plus en plus. Ou alors, dans la cure analytique, ces répétitions qui œuvrent davantage chez la personne névrosée, dans la cure analytique, ça permet de sortir le sujet de son aliénation, de son désir infantile qui l'aliène, de façon à libérer le sujet et de cette modalité de jouissance qui était une jouissance mortifère, de se faire l'objet du désir de l'autre, pour être plus technique, de façon à l'ouvrir à un désir plus tempéré. Et Lacan avait même parlé de termes de sagesse. Il nous disait en fin de son séminaire L'éthique et dans le discours de Rome aussi qu'une cure analytique devait être menée jusqu'au terme de la sagesse. Voilà.
J'ai envie de citer Monique Loré dans un précédent ouvrage parce que je trouve que la formule est magnifique sur au fond cette sagesse peut-être. C'est pas si sûr qu'on soit très sage à la fin après une analyse, mais de comment on se débrouille de cette énergie libérée, en tout cas, ça, il semble qu'il y en ait beaucoup. Cette formule, tu avais une formulation absolument magnifique qui disait qu'il s'agissait du passage du sujet jouissance au sujet joie dans un des-êtres assumé. C'est peut-être ça, se libérer de l'aliénation des désirs infantiles, faire avec l'absence de garantie, l'absence de référence, ce désêtre à l'intérieur de soi, assumé, et qui libère de l'énergie. C'est une magnifique formule quand même.
Merci Serge. Accéder aux des êtres suppose un renoncement, hein, et un renoncement des modalités de jouissance inconsciente antérieure, et un renoncement de cette tentative. Quand le sujet est aliéné et pris dans l'imaginaire, il tente d'être par la modalité que Lacan a appelée par le par-être. Par être dans le fantasme, une tentative d'être en répétant son fantasme, en fait. Alors, pour vous donner une illustration, peut-être, parce que je parle un petit peu trop technique, on va prendre un exemple assez simple dans la névrose hystérique. C'est-à-dire certaines jeunes patientes qui n'arrivent à construire leur vie affective qu'en répétant le schéma oedipien premier, c'est-à-dire de tenter de séduire le père, de tenter de séduire un homme non libre. Voilà. Donc certaines jeunes femmes errent un petit peu toute leur vie en répétant des engagements avec des hommes mariés sans pouvoir arriver à vivre pleinement leur vie de femme et arriver à être sortie de ce fantasme-là, c'est-à-dire pouvoir rencontrer un autre type d'homme qui demande d'avoir renoncé d'abord au père.
On peut être prisonnier de soi-même.
Tout à fait.
Et la question, c'est qu'il faut peut-être que ça se répète un certain nombre de fois pour qu'on puisse attraper que c'est pas les autres qui nous mettent en prison. Et qu'on va s'y mettre tout seul. Et que peut-être, à un moment donné, on peut utiliser son énergie à faire autre chose qu'à de toujours se mettre en impasse, ne serait-ce que pour s'en plaindre, parce qu'après tout, la plainte, c'est aussi un positionnement. Mais on peut aussi se libérer de ça. Enfin, je crois que dans le renoncement dont tu parles, il y a ça. C'est pouvoir se renoncer à cette plainte-là, au fond, pour assumer quelque chose de plus profond. Et faire avec l'énergie que ça libère.
Ça me fait associer avec une jeune fille que j'ai vue hier dans un secteur hospitalier où je travaille, d'hospitalisation de jeunes adolescents. Une jeune fille qui avait fait une tentative de suicide en se jetant d'un pont au mois d'avril. Et qui arrive dans notre service et qui n'était pas contente du tout d'être là. Et donc, je l'avais reçue, puis je l'ai laissée un petit peu tranquille un ou deux jours. Puis, je suis revenue la voir hier pour voir si elle avait envie de parler un petit peu. Et elle a pu se livrer un peu. Je lui ai demandé si elle était en souffrance. Elle m'a dit oui, puis elle a commencé à pleurer et à me livrer qu'elle se sentait effectivement très seule depuis toute petite, avec un père qui violentait profondément, de manière importante, la mère, et qui était très violent verbalement avec elle. Mais elle me disait, mais je m'en suis toujours sortie toute seule de ma souffrance, j'ai pas besoin de vous, j'ai pas besoin de votre pitié. Et je lui ai dit, mais tu as quand même fait un geste très grave là. Peut-être que tu as été en impasse, justement, dans ta souffrance. Voilà. Et ça, elle l'a entendu, donc il y a eu beaucoup d'émotions. Et elle m'a livré un rêve. Et dans ce rêve, elle part avec tout le groupe d'adolescents de la clinique. Ils s'échappent en traversant le mur et ils atterrissent dans un cirque. Et je lui ai dit, mais tu te sens enfermée ici ? Elle m'a dit oui sur la question de l'enfermement. Je lui ai répondu, mais n'est-ce pas plutôt ta souffrance qui t'enferme ? Après, bon, je l'ai faite associer autour du cirque. Elle n'a pas pu associer grand-chose. Voilà, mais voilà. Donc juste pour... Effectivement, c'est le propre enfermement dans lequel le sujet, effectivement, peut s'enferrer. Jusqu'à s'autodétruire, ou jusqu'à trouver, à se mettre en impasse. Par rapport à son suicide, je lui ai demandé si elle avait vraiment un désir de mourir ou un désir de souffrir moins. Et elle m'a dit que c'était surtout un désir de moins souffrir. Donc le désir de mort dans les suicides est quand même relativement rare. Nous sommes quand même pris dans une société qui prône ce qu'elle appelle la dématérialisation, mais moi j'entends la déshumanisation. Hein. C'est-à-dire maintenant, vous allez à l'aéroport, vous n'aurez plus personne, hein. Vous ne vous confronterez qu'aux machines, jusqu'aux machines dans lesquelles vous mettrez aussi vos valises. Voilà. Donc une société qui est, où l'humain va devenir superflu. Donc nous avons tous du travail.
Voilà. C'est donc le moment de pouvoir te rencontrer autrement.